quel est ce peuple de Ramallah? Je voudrais vous donner une analyse assez schématique de l'histoire d'Israël traversant toutes les difficultés vis-à-vis des adversaires que cette histoire a rencontrés. Bon, ça va me prendre quelques phrases, mais je crois que c'est important. Vous devez remarquer dans le récit de la Bible, de l'histoire des patriarches, que dès que le patriarche apparaît avec lui dans le même récit un adversaire. D'une certaine manière, on pourrait dire que l'antisémitisme apparaît dès qu'il y a Abraham. Alors, au niveau d'Abraham, et je le dirai rapidement à chaque génération, au niveau d'Abraham, nous aurons deux personnages qui accompagnent l'histoire d'Abraham. D'un côté, c'est Nimrod. Et de l'autre côté, c'est Lot. Nimrod, c'est l'adversaire qui veut annuler Abraham. Selon le Midrash, Nimrod était le roi de Babel qui a jeté la famille d'Abraham dans la fournaise de Kasdim. Et Lot, c'est un parent d'Abraham qui ressemble à Abraham et qui va très rapidement devenir un rival d'Abraham, une approximation d'Abraham qui devient un rival d'Abraham. Et nous allons voir qu'à chaque génération, et c'est une ligne qui traverse toute notre histoire, Israël, dans son histoire, est accompagné par deux séries de rivalités. Une, c'est l'antagoniste qui veut détruire. L'autre, c'est une approximation d'identité qui veut le supplanter. Alors, très rapidement, au niveau de l'histoire d'Abraham, c'est Nimrod d'un côté et l'autre de l'autre. Bon, finalement, Nimrod, le tyran, disparaît avec son empire, mais Lot va faire souche. Et de Lot apparaîtront deux peuplades, Moab et Ammon, dont le récit biblique nous montre la rivalité, qui dure d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, bien que occultée, contre Israël. Qui est le véritable Israël? La descendance de Lot par Ammon ou Moab, ou la descendance d'Abraham? Ça, c'est la première génération. La deuxième génération, le patriarche, c'est Isaac. Il est accompagné d'un côté par un antagoniste qui veut le supprimer, c'est Abimelech, le roi de Philistée. Et de l'autre côté, par une approximation d'identité qui veut le supplanter, c'est Ishmaël. Ça fait déjà quatre rivalités. Okay, deux dans la première colonne, ça c'est Nimrod, Abimelech, et deux dans la seconde, c'est Lot et Ishmaël. Au niveau de Jacob, c'est déjà plus proche de nous, vous avez d'un côté l'approximation d'identité qui est Ésaü, qui se prend pour Israël, et de l'autre côté, Laban, qui veut détruire Jacob complètement. Ceux qui connaissent les textes peuvent vous être familiers. Okay. L'antagoniste, au temps de Jacob, c'est Laban. Ça fait six adversaires, trois d'un côté, dont l'objectif c'est de détruire Israël, et trois de l'autre, dont l'objectif c'est de le remplacer. Et tous ces dossiers des adversaires d'Israël traversent l'histoire et nous les avons jusqu'à aujourd'hui. On pourrait prendre du temps pour les identifier, mais je ne veux pas vous donner des cauchemars. Et alors, à certaines époques de l'histoire d'Israël, qui sont les époques de fin d'exil, un personnage plus terrible apparaît qui s'appelle Amalek et qui récapitule ces six rivalités à la fois dans une septième qui les dépasse. C'est un personnage, une manière d'être l'adversaire d'Israël qui veut à la fois détruire Israël et le remplacer. Ça, c'est Amalek. Pour vous donner simplement une identification très rapide, si vous avez lu Mein Kampf de Hitler, vous rendrez compte que le programme de Hitler, c'était de détruire Israël et de le remplacer. Qui a lu Mein Kampf? Mais je vous engage à le lire parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que cherchez-le dans une bibliothèque. Et moi je l'ai lu au temps du nazisme. Et voilà ce que j'ai découvert, c'est qu'avec un cynisme absolu, Hitler a dit exactement ce qu'il voulait faire. Et personne ne l'a cru. Voilà pourquoi c'est important de lire ça. Parce que finalement, à travers l'histoire, les adversaires d'Israël disent exactement ce qu'ils veulent faire, mais on ne veut pas les croire. Alors lisez la charte palestinienne, mais lisez d'abord Mein Kampf. Et puis, ce Amalek apparaît, c'est cela qu'il faut préciser, dans le moment de fin d'exil. Amalek apparaît à la sortie d'Égypte et tente de détruire Israël et de le remplacer. Amalek apparaît à la fin du deuxième exil, c'est tout le récit du livre d'Esther, le récit des Amalécites, Aman, et qui ont pour objectif de détruire la communauté juive de Perse. Vous vous rappelez de cela? Esther intervient et la sauve miraculeusement. C'est toute l'histoire de la Megillat Esther. Et c'était au temps de la fin du deuxième exil. Il y a d'ailleurs une correspondance des dates avec l'histoire contemporaine qui est assez impressionnante. Il y a d'abord la déclaration du roi des Perses Cyrus, qui est le dernier texte de la Bible, qui donne la possibilité aux Juifs de Perse de rentrer en Judée et de reconstruire le temple. Ce sont les derniers versets de la Bible. Et on pourrait l'appeler la déclaration Cyrus, à la manière de la déclaration Balfour, d'ailleurs. Eh bien, les Juifs de Perse ne bougent pas. Aman prend le pouvoir quelques années après. Et finalement, grâce à la reine Esther, la catastrophe est évitée, mais on a le même épisode. Eh bien, de notre temps, il y a eu la déclaration Balfour. Quelques années après, Hitler a pris le pouvoir. C'est très parallèle. Mais sans entrer dans ces détails-là, c'est pour dire que c'est au moment où on arrive à une période de fin d'exil qu'une certaine manière d'être l'adversaire d'Israël, qui récapitule tous les dossiers, et de Nimrod, et de Lot, et de Abimelech, et de Ishmaël, et de Laban, et de Esav, apparaît, et encore une fois, son objectif est double. C'est et de détruire Israël et de le remplacer. Alors, je n'ai pas besoin de vous donner des identifications supplémentaires. C'est tellement évident. C'est vrai ? Pourquoi je le traite de Cyrus ? Pourquoi je le traite de Cyrus ? Et il explique ça, c'est clair. Mais Cyrus était très inspiré. Je n'ai pas les versets en mémoire, mais je peux vous les dire de mémoire. Vous avez une Bible ? Cyrus a décrété les Juifs de l'Empire perse ont le droit de retourner à Jérusalem, reconstruire leur temple et fonder leur État. Exactement ce qu'a dit Balfour en d'autres termes contemporains. C'est pourquoi je n'ai pas compris ta question.
Cyrus avait donné
l'argent.
Cyrus
Balfour aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que au moment où Cyrus a donné le feu vert aux Juifs de Perse, c'est là que la Bible s'arrête.
Tu dis qu'Amalek réunit à la fois le...
Mais c'est pas Cyrus, Amalek.
Non, mais tu dis qu'Amalek réunit à la fois celui qui veut supplanter et celui qui veut combattre.
Et celui qui veut détruire Israël, oui. Et pourquoi tu dis Cyrus ? Au contraire, Cyrus est appelé par la Bible Meshiach Hashem. Ça, on le sait très peu. Hein. Les prophètes l'appellent un Messie de Dieu. Ça veut dire qu'il a donné la possibilité... aux Juifs de l'Empire perse, de ce que Moïse avait obtenu du Pharaon pour les Hébreux de l'Empire égyptien. Donc il y avait une impression. Mais c'est pas Cyrus qui est Amalek. Alors je décrypte. Non, j'ai parlé d'Hitler. Oui. Mais c'est grâce à Cyrus que la fin de l'exil était possible. À ce moment-là apparaît Aman. Voilà, c'est raccordé. C'est tout le contraire. De notre temps, on voit aussi que cette tentative de détruire le peuple juif et de le remplacer apparaît à un temps de fin d'exil. Alors je te remercie de ta question, ça me permet de préciser. Je pensais que c'était évident. C'est ça ? Pardon ? Un cinquième. Oui. Nous espérons faire mentir les statistiques. Et il n'y a pas de fatalité dans les statistiques. Mais enfin, c'est quand même frappant de voir que c'est une partie qui sort d'Égypte, une partie qui sort de Perse, une partie qui sort d'Europe, puisqu'ils ont hérissé la fin de l'exil d'Europe, finalement. Bien. Et il y a encore une autre question ?
Et puis après, deux.
Oui. Une, sur le sujet.
Oui, une avec Amalek et une avec la prière.
Oui.
Alors, avec Amalek, Shaoul a eu la... Dieu a demandé à Shaoul de détruire l'identité d'Amalek et Shaoul ne l'a pas fait.
Oui.
Et je veux dire, est-ce que c'est grave ? Enfin, c'est grave dans le sens où on a eu l'occasion de supprimer cette identité et on ne l'a pas fait, je veux dire.
Oui, tu as donné la réponse à la question.
Non, mais...
Ça veut dire qu'il y a une... Encore une fois, un handicap de la conscience morale de Shaoul lorsqu'il a fait prisonnier le chef de la tribu d'Amalek. Il ne l'a pas détruit selon l'ordre de la Torah. Il a eu pitié de lui. Alors d'Amalek est descendu finalement à Man. Okay. Et je ne veux pas faire d'analogie contemporaine. Mais enfin, je ne sais pas si Mitterrand s'appellerait Shaoul, mais il a sauvé deux fois en fait.
Je voulais...
Oui.
Voilà.
Oui.
Et
il a
les
Et en tout, ça, a duré un an et demi. En tout. Bien. Il y a une deuxième question sur la prière. Et ensuite, je prendrai un autre sujet.
Dieu dit à Moïse, on n'a pas le temps de prier, c'est pas le moment.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que on est dans un temps d'histoire? Parce qu'on sait que la prière, les femmes ne font pas la prière à cause des mains grammes. Est-ce que le temps de la sortie, le temps de traverser la mer Rouge et le temps de Matan Torah, enfin, est-ce que c'est un temps comparable? C'est un temps tellement exceptionnel qu'il fallait aller. On n'a pas le temps, il faut aller vite, sinon l'événement n'a pas lieu. Enfin, je ne sais pas si je me suis
mal. Non, c'est moi qui me suis mal exprimé tout à l'heure, ou pas suffisamment. La question est beaucoup plus simple. Ce n'est pas le temps de prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire, prier, c'est demander que Dieu intervienne, mais en ce moment-là, Dieu ne peut pas intervenir. Parce que la justice est du côté des Égyptiens. Ils ont payé le prix d'obtenir ce peuple comme esclave, les 10 plaies, et par conséquent, les Hébreux le sachant, voyant que l'ange tutélaire de l'Égypte vient plaider au tribunal céleste, savent qu'ils n'ont pas à s'attendre à une intervention de Dieu, à moins que, Dieu dit à Moïse, qu'ils aient un mérite supplémentaire. Pardon ? Oui. Et je répète l'explication que j'ai dit tout à l'heure. Les clauses étaient chaque fois « Laisse sortir mon peuple ou tu recevras telle plaie. » S'ils ont reçu la plaie, ils ont le droit de ne pas le laisser sortir. Alors la panique a fait que les... Oui. C'est Alors, je vais reprendre la question un peu plus large et vous donner deux réponses. Qu'est-ce que faisaient les Hébreux en Égypte, Birlam? Ça rappelle une histoire juive. On m'a une fois demandé, si un juif est au pôle Nord, comment il compte Shabbat? La réponse est, qu'est-ce que fait un juif au pôle Nord? Mais je vais vous donner un autre exemple. Mais non, il n'y a pas de juif au pôle Nord.
Oui.
Parce que la question est importante. Je vais vous donner un autre exemple. C'était un séminaire à Rachi il y a quelques années. Et on étudiait le Shabbat. Et un étudiant a posé une question en disant, mais comment je peux faire pratiquer le Shabbat? L'immeuble où j'habite le 25e étage. Alors il dit, la réponse est très simple. Un homme normal n'habite pas le 25e étage. Mais je veux dire, ça a eu des conséquences. Il a changé d'appartement. Et puisqu'il habite maintenant en Israël. Mais je reviens au problème. Il y a eu un contrat de travail entre les Hébreux et la civilisation égyptienne. Ça commence avec Joseph. Joseph a rêvé que la mission d'Israël était d'être au service de la civilisation du temps. Il en est devenu d'ailleurs le vice-empereur, je ne sais pas comment dire. Et ça va encore beaucoup plus loin. Déjà, Dieu avait dit à Abraham, et ça dura 400 ans, vous vous rappelez je ne rentre pas dans tous les détails. Donc, si un contrat de travail, il ne peut être rompu, quelle que soit la cause pour laquelle on demanderait que le contrat soit rompu, que s'il y a l'accord du patron. Le patron, c'était le pharaon. Et c'est pourquoi, tant que le pharaon n'a pas dit « partez », on est enchaîné par ce contrat. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxièmement, on s'aperçoit dans le récit que les Hébreux ne voulaient pas sortir de l'Égypte. Et ça, je vais y arriver avec le début de la paracha, immédiatement. Mais ce n'était pas tellement cela, la question. La question était que, du point de vue d'une justice absolue, et je crois que je n'ai peut-être pas été assez explicite, Dieu ne peut pas intervenir pour les Hébreux contre les Égyptiens parce que les Égyptiens ont payé le prix. Et c'est de cela, dans le verset que j'ai étudié, c'est de cela que les Hébreux ont peur, de voir l'ange tutélaire de l'Égypte venir au secours de l'Égypte d'en bas. Et ceci pour expliquer que...
Ils n'avaient pas assez de mérite.
Parce que s'ils avaient eu assez de mérite, quand 40 ans avant, Moïse leur a dit c'est le temps de partir, ils seraient partis avec Moïse. Ils ont refusé, et Moïse a dû s'enfuir à Midian, se protéger de la colère des Hébreux. Vous vous rappelez de cela? Je crois qu'il est inutile d'analyser plus loin. C'est que la situation est celle, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une balance de mérite ou de démérite qui fait que Dieu, en toute justice, ne peut pas intervenir pour les Hébreux à ce moment-là, à moins qu'ils aient un mérite supplémentaire. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, ne me prie pas, je ne peux pas répondre. C'est ça qui n'était pas suffisamment clair. C'est vrai ? Mais bien sûr. Je te dis.
C'est vrai ? Oui.
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 Et justement, c'est cela qui pose la question. Est-ce que les Hébreux n'étaient pas en droit de penser cela ? Et pourquoi donc ont-ils eu peur ? Puisqu'ils ont le mérite d'être sortis, peut-être la protection de Dieu continuera à les accompagner. On pourrait le supposer. C'est là que le Midrash que je vous ai cité nous répond. Ils savent qu'ils sont sortis en fraude. Parce que puisque les Égyptiens ont été frappés des 10 plaies, ils n'avaient pas le droit de sortir. Ça va jusque-là, la conscience de la justice absolue. C'est pourquoi le texte dit qu'ils se sont enfuis. On a raconté aux Égyptiens, le peuple s'est enfui. Et alors, il est allé les poursuivre. Non, il les a renvoyés dans une panique du moment de la plaie des premiers-nés. Et ensuite, lorsqu'il s'est calmé, il s'est rendu compte que la justice était de son côté. Vous m'obligez à me faire l'avocat du
Pharaon. C'est très difficile de comprendre ce que c'est qu'un Dieu universel.
Voilà.
C'est extrêmement difficile.
Voilà. Eh bien, c'est ça le sujet. C'est-à-dire un Dieu uni. Hein.
Unique, voilà. Universel.
Ce que je voulais. Voilà, très bien. C'est ça le sujet. Ça nous explique pourquoi l'histoire d'Israël est si difficile. Parce que le Dieu d'Israël, c'est pas seulement le Dieu qui s'occupe que d'Israël. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de l'universel humain. Pour ne parler que de l'humanité. Il a tout créé, mais en particulier au niveau de l'humanité. Et par conséquent, et cela dérive de la définition même de la foi d'Israël, le Dieu d'Israël se révèle comme étant celui qui protège l'autre. Encore une fois, Ve'ahavta le'acha kamocha ani Hashem Elokecha. C'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Pardon ? Jamais au détriment d'Israël quand Israël le mérite. Qui Israël? Mais les plaies n'ont pas frappé Israël, ils ont frappé les Égyptiens. Ah, ouais. Je vous dirais d'ailleurs, d'après ce que vous venez de dire, le texte du Talmud, en parlant des plaies, dit que c'était et des plaies et des miracles en même temps. La Mishnah dit ceci: 10 plaies ont frappé les Égyptiens en Égypte, et nos pères ont mérité 10 miracles en Égypte. Le Maharal de Prague expliquait de la manière suivante. Lorsque la plaie frappait l'Égypte, c'est une catastrophe qui aurait dû frapper aussi les Hébreux. Et pour préserver les Hébreux de la plaie d'Égypte, il fallait un miracle. C'est-à-dire qu'il y avait simultanément la plaie et le miracle du fait que les Hébreux n'ont pas été frappés. L'expression est très forte dans le récit. Pour la sortie d'Égypte, le texte dit « Goy mikrev goy », sortir une nation du dedans d'une autre nation. C'est-à-dire qu'Israël est comparé par le Midrash comme un embryon dans le sein de sa mère lorsqu'il était en Égypte. Imaginez, les Hébreux et les Égyptiens, c'est la minorité juive au sein d'une nation étrangère. C'est mélangé. Alors comment les faire sortir une nation du devant d'une nation? Il ne suffit pas la plaie, il faut le miracle dans la plaie pour distinguer. Vous voyez à quel point c'est énorme ce qui se passe là. Et alors, la question fondamentale est que il y a une promesse de protection sur Israël, mais il y a des clauses. En particulier, nous en avons un exemple ici. Le texte est très clair. Dieu dit à Moïse, je ne peux pas intervenir, à moins que, avancer, on verra. Avancer, ça veut dire acte de foi, et ça suffit. Alors là, Dieu peut dire à l'ange de l'Égypte, oui, mais cela en foi. C'est ça le mystère de l'histoire d'Israël. Je vais le reprendre d'une autre manière, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois que c'est important de le comprendre. À jugement humain, après tout, on ne voit pas pourquoi Dieu privilège les Juifs plutôt que les Goïms. Ceux-là sont comme ça, ceux-là sont comme ça. Ceux-là... Qui peut voir la différence entre une barbe juive et une barbe druse? Et vous avez des visages druses très nobles. Okay, et parfois peut-être plus nobles que des visages juifs. Ça arrive. Okay. Alors, objectivement, qu'est-ce que c'est que tout ce récit de la Bible? Pourquoi le Dieu unique préfère cela à cela, éternellement? Et c'est donc qu'il sait qu'il y a des raisons. C'est donc qu'il y a des raisons. Et si ces raisons ne jouent pas, il est paralysé, si j'ose dire. Vous m'excusez d'employer ce terme-là, je cite le Midrash. Et il dit à Moïse, je ne peux pas. Qu'est-ce qui se passait là? J'essaie de vous l'expliquer d'une certaine manière, on peut l'expliquer d'autres manières. Il y avait une sorte de balance de la justice qui fait que Dieu ne pourrait intervenir à moins qu'il y ait pour Israël un mérite qui justifie la promesse de protection.
Il y a un seul affiché.
Hein? Et voilà. Exactement. C'est ça la grande leçon de Nachshon. Okay? Lorsqu'il y a un Nachshon ben Aminadav, comme on l'a traduit, alors tout peut s'embrasser. Après, il y a eu 12 pour chaque tribu. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais il y a d'abord l'acte de celui qui a commencé. Je ne sais pas si c'est par hasard que c'est hier soir, vous avez vu à la télévision une émission sur Ben-Gurion. Je ne sais pas si c'est un hasard. En fait, je ne sais même pas si c'est Ben-Gurion qui est le Nachshon. Peut-être que c'est Herzl, j'en sais pas, peut-être que c'est quelqu'un avant, le Gaon de Vilna, qui a dit un des premiers, le temps est arrivé, le Chafetz Chaim. Okay? Et ça commence. Et je pense que c'est clair, c'est Nachshon. Après, les autres suivent. Et vous savez, quand on se balade dans certaines plaines du Galil, où on sait qu'il n'y a pas 40 ans, c'était des marais. Et je vous assure qu'il n'y a pas d'hôtel pour touristes là-bas à ce moment-là. Et alors, il a bien fallu que quelqu'un décide, bon, on va s'installer là-bas pour assécher les marais. Alors c'est le premier qui s'appelle Nachshon. Toute proportion gardée, c'est la même chose. Et à l'époque, il y avait des moustiques et des turcs, et des fonctionnaires de l'Empire britannique. En tout cas, pour revenir à notre problème, nous voyons que le Midrash nous aide vraiment, non seulement à mieux comprendre ce qui s'est passé en ce temps-là, dans le récit de ce temps-là, et ce n'est pas pour rien que ce récit, c'est notre mémoire, mais en même temps, il nous permet de mieux diagnostiquer ce que nous vivons de notre temps. Et je dirais même qu'il y a un mouvement de va-et-vient. C'est-à-dire, le texte nous fait comprendre notre histoire, et c'est notre histoire qui nous fait comprendre le texte. Cette chose invraisemblable que raconte le texte explique la chose invraisemblable que nous vivons. Et le fait que nous vivions cette chose invraisemblable rend compte de la cohérence du texte qui nous parle de l'histoire de commencement. Je crois que c'est important de se rendre compte de cela. C'est le Midrash qui nous permet cela. Et pendant des siècles, on pourrait lire ce récit biblique de la façon lecture pieuse sans y comprendre de ce qui se passe à l'histoire juive.
Est-ce qu'on peut lire?
Et je vais terminer la phrase. Et puis lorsqu'on se rend compte que c'est cette histoire qui nous est racontée, alors on se rend compte que ce n'est plus seulement une histoire pieuse, c'est notre carte d'identité. C'est grâce à un Midrash que nous pouvons faire.
Okay? Est-ce qu'on peut dire que l'acte de foi de Ben-Gurion décidant seul la création d'État d'Israël est le même phénomène?
Très analogue. Je vous dirais parce que dans ce contexte historique, il y avait principalement deux tendances dans le Yishuv des Juifs palestiniens de l'époque. Soit avoir un État binational, soit avoir un État juif. Et finalement, la décision de Ben-Gurion d'avoir un État juif l'a emporté. D'ailleurs, la discussion était même plus complexe. Il y avait même toute une tendance, surtout dans le MAPAM, qui aurait accepté d'être une minorité juive dans un État arabe. Et finalement, c'est la décision de Ben-Gurion, en dépit de toute vraisemblance, de toute certitude, à l'époque, c'était vraiment un rêve, qui a décidé, qui a imposé que ce serait un État juif. Et jusqu'à présent, il y a une tension entre le Maharar, entre le Mapam et l'ancien Mapai du Maharar, encore sur ce problème. Vous comprenez un peu à quoi je fais allusion, okay? Il y a eu un saut mal inconnu, il y a eu un pari. C'est ce Nachshon, encore une fois, qui rentre dans la mer. Aujourd'hui, on est habitué à l'idée qu'il y a un État juif. Mais tous, moi y compris, pendant toute une partie de notre vie, c'était irréel. L'idée d'un... Mais non, c'est rentré dans la réalité. Ça va de soi. Eh bien, il a fallu le commencement. Bon, là, c'est un épisode très anodin. Alors, si vous permettez, pour la deuxième partie de l'étude, je vais prendre le début de la paracha. Et alors, ça, c'est... je vais vous donner la référence.
Azachir, non?
Bon, je vais pas parler de l'Asia sur mon chien, mais du verset sur le passage de la mer. Si tu veux, je pourrais. Voilà ce que dit le texte. Alors, nous allons suivre attentivement. Je donnerai la traduction simultanée en hébreu et en français. C'est le verset 17 du chapitre 13 qui commence notre texte et qui dit Voyez, et il arriva. Béchalar parlant au Taham, lorsque le pharaon eut envoyé ou renvoyé le peuple, Velon Acham Elokim Derecheres Pelishtim, Dieu ne les a pas conduits par le chemin de la terre des Philistins, qui est grosso modo ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire de Gaza, qui s'appelait Eretz Pelishtim. C'était des comptoirs de Pelachet, qui était une peuplade qui venait de Crète, et qui avait des comptoirs sur la terre de Canaan, Gaza, et puis des villes comme Ashdod, Ashkelon, aujourd'hui. Enfin, toute cette bande côtière-là. Ceux qui ont visité Ashkelon, par exemple, savent qu'il y a encore des vestiges du temps de ces civilisations. C'était un chemin proche. Effectivement, quittant l'Égypte par le chemin de la côte, il aurait suffi, dit un autre texte dans le Varim, de 11 jours de marche pour arriver dans la région de Jérusalem. Alors Dieu ne les a pas dirigés directement par ce chemin qui s'appelle Derech Pelishtim, Kikarovu, parce qu'il était trop proche, et moi qui ajoute trop, Kiamar Elokim, car Dieu s'était dit, Peninachem Aham, de peur que le peuple ne regrette, Lirota Mihama, en voyant la guerre, ou disons l'éventualité de la guerre, Veshavu Misraima, et nous retourne en direction de l'Égypte. Vayase Belokim et Aham, Derech Amidba, et Dieu fit contourner le peuple par le chemin du désert, Yamsou, de la mer Rouge, Vachamushim Alou Bene Israël, Meret Mifraim, et c'est armé en guerre que les fils d'Israël, les Bene Israël, sont montés de l'Égypte. Jusque-là. Alors, est-ce que vous avez pris garde au fait que pendant tout le récit, on parle du peuple, et au dernier verset, on parle les enfants d'Israël? Est-ce que vous avez senti cela? Et puis, surtout, avant d'y arriver, je poserai une question globale. On est habitué à l'idée que si les enfants d'Israël ont passé 40 ans au désert avant d'arriver en Eretz Israël, en quittant l'Égypte, c'était pour passer au Sinaï, recevoir la Torah. On n'a aucune allusion à cela dans ce texte. C'est-à-dire, encore une fois, je répète, si on se demande pourquoi le peuple n'est pas entré directement en Israël, mais est passé par le désert, notre habitude traditionnelle de penser, c'est de se référer à un événement important, la révélation de la Torah au Sinaï. Donc il fallait passer au Sinaï pour recevoir la Torah, mais le texte ne fait aucune allusion à cela. Ça semble étrange. Vous comprenez le problème? Donc. Alors, voilà, je vous cite une tradition du commentaire qui, en se basant sur ce texte, va nous expliquer quelque chose d'assez important. Il n'y a pas que les Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Les Hébreux qui sont sortis d'Égypte, le texte les appelle les Bnei Israël. C'est les descendants des tribus qui s'appellent les enfants d'Israël. Mais avec les enfants d'Israël qui étaient des Hébreux descendants des tribus des patriarches, il y a eu tout un ensemble de peuples qui étaient en esclavage en Égypte. Et que Moïse a pris l'initiative d'adjoindre au peuple d'Israël, des enfants d'Israël, et de faire sortir d'Égypte. Et le texte semble parler de ce âme, de ce peuple. Encore une fois, et il arriva lorsque le pharaon eut expulsé, renvoyé le peuple, Dieu ne les a pas conduits directement en Eretz Israël, mais les a fait passer par le désert. Et la motivation qui nous est donnée, c'est que la crainte de la difficulté qui risquerait de les attendre dans la guerre d'indépendance, si j'ose dire, ferait qu'ils revêtraient, se raviseraient et retourneraient en Égypte. Alors que, et c'est là l'implication étrange, le dernier verset que je vous ai lu, qui est le verset 18, à la fin dit « Et les enfants d'Israël sont montés armés en guerre ». Il semble y avoir une contradiction. Est-ce que c'est clair? Si on ne distingue pas qu'il s'agit de deux ensembles différents du même peuple. Il y a trois entités que la Bible va désigner de la manière suivante. Bnei Israël, c'est les descendants des tribus. Ram, c'est le peuple qui s'est adjoint à eux. Que dans d'autres contextes, la Bible, la Torah nomme le Erevav, le grand mélange de peuples qui s'est adjoint à Israël. Dans un autre texte d'ailleurs, Asapsu, la foule. Et puis, lorsque finalement les deux seront intégrés, alors il y a l'expression Am Bene Israël, le peuple des enfants d'Israël. Et j'expliquerai donc ceci. Les enfants d'Israël étaient décidés, Hamushim, ça veut dire littéralement en colonne par cinq. C'est ce qui est le rang de bataille. C'est pourquoi la traduction habituelle, c'est armée en guerre. Alors que par exemple, les chars, les soldats des chars, on les appelle les chalichim, parce qu'il y avait des équipages de trois, alors que l'infanterie, c'était en rempart cinq. Ça, tu es plus familier que moi. Okay. Et ça veut dire que les enfants d'Israël, les tribus, étaient décidés, puisque la sortie d'Égypte avait été rendue possible, à toutes les éventualités, la guerre y compris, pour entrer dans le pays des ancêtres. Alors que le peuple n'est pas concerné par ce pays. Il y en a la partie du peuple qui est appelée le peuple. Il y en a une péripétie sur laquelle nous devons réfléchir. Voilà donc un ensemble des Hébreux et de ceux qui ont vécu l'expérience de la foi des Hébreux. C'est pourquoi Moïse, les adjoint aux Hébreux, sort d'Égypte. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est que la foi des Hébreux en ce temps-là? On est avant la révélation de la Torah. C'est qu'on a eu l'expérience de l'aliénation de l'exil et on a l'expérience que la Géoula, le salut, est possible. Or, de qui s'agit-il de ce peuple que Moïse adjoint à Israël? D'hommes de tous les peuples qui ont eu la même expérience existentielle que les Hébreux. L'asservissement de l'esclavage et l'expérience qu'on peut être sauvé de cela. C'est pourquoi le diagnostic de Moïse est très clair. Dès qu'ils ne soient pas descendants des patriarches, ils ont la même identité. Ils sont destinés à la même identité. C'est le peuple des convertis à Israël par expérience de la sortie d'Égypte. C'est très analogue d'ailleurs à ce qui se passe aujourd'hui autour d'Israël et du peuple juif, ou de tous les peuples. On sent, bon, pour le moment c'est un phénomène individuel, mais qui avec les années s'accroisse, et certainement dans les temps qui viennent, ce sera un phénomène assez raz-de-marée. Ça nous le ressentons en Israël comme ça. De tous les pays nous arrivent des hommes et des femmes qui nous demandent de devenir juifs pour pouvoir être israéliens. Bon, pour le moment, encore une fois, c'est à l'échelle individuelle. Mais ne croyez pas que c'est microscopique comme événement. D'année en année, ça s'accroît. Et alors, on leur demande, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Nous sentons que l'histoire passe par nous. Ou d'autres formulations, d'autres motivations, qu'on pourrait dire de 100 manières différentes, mais ça revient au même. Ça veut dire, nous avons l'expérience que vous vivez le salut. Alors, on veut vivre le salut avec vous. C'est exactement ce qui se passe au temps de la sortie d'Égypte. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Et c'est pourquoi Moïse dit, ils sont candidats à l'identité d'Israël, ils sortent d'Égypte avec Israël, ils ont la foi d'Israël. Seulement, ils ne sont pas descendants des patriarches hébreux. Alors, ça nous explique un problème assez mystérieux. C'est que le peuple sorti d'Égypte, finalement, va accepter la Torah de Moïse, mais ne rentrera pas en Eretz Israël. Vous vous rappelez de cela? Pourquoi? Et il y a deux épisodes, la faute du veau d'or, et ensuite, la faute des explorateurs, vous vous rappelez? Le récit nous montre très clairement, c'est que cette partie du peuple, qui n'est pas le descendant des enfants d'Israël, mais qui va se joindre à eux, accepte la loi de Moïse, mais ne sont pas concernés par la promesse de la terre. Est-ce que c'est clair? Ben, ce n'était pas leur terre, tout simplement. Alors, maintenant je marche sur des œufs de Pâques. Il faut faire aucune analogie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons énormément de juifs qui acceptent la Torah de Moïse, mais pas la terre d'Israël. Alors, je n'ai pas dit que c'est leur descendant, hein. Ne me faites pas dire que c'est leur descendant. Je veux dire qu'il y a une situation très analogue. Je répète pour que ce soit clair. À la sortie d'Égypte, il y a deux parties du peuple. L'une qui sont les descendants des Hébreux et qui sont prêts en rang de guerre pour faire la guerre, pour entrer en Eretz Israël. Le peuple, eh bien, Dieu juge qu'ils ne sont pas prêts, il faut leur faire passer 40 ans de stage dans le désert. Et finalement, ils acceptent la Torah. Mais même après avoir accepté la Torah, ils ne veulent pas rentrer en Eretz Israël, ils préfèrent rester au désert. C'est-à-dire au désert. Et ils sont restés au désert. C'est-à-dire cette partie du Ham a été plus forte que la partie des enfants d'Israël, descendants des Hébreux. L'analyse que je vous donne là, dont vous êtes nouvelle, hein? On sait bien qu'il y a des sources écrites. Mais non, j'ai bien conscience que ça doit vous étonner. Vous avez jamais entendu ça. Okay? Alors, je reprends l'analyse parce qu'elle est très simple. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un phénomène incompréhensible. Vous avez des juifs de la Torah de Moïse, mais qui, comme cet épisode-là, ne veulent pas d'Eretz Israël. Ils la considèrent comme une terre sainte. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Okay. Parce qu'il y a dans la loi de Moïse que c'est une terre sainte. Bon, alors, si c'est clair, je n'ai pas dit que ces juifs-là, c'est du Hébreu et pas des Hébreux, j'en sais rien. Et d'ailleurs, je vais vous dire, si c'est des Hébreux, c'est pire. Je pense que c'est pire. Oui, qu'est-ce que tu veux dire?
Est-ce que si on revient à Jésus dans le monde, que théoriquement, un cinquième est sorti, et du Hébreu, c'était les 400, ont remplacé les 400 qui sont
ressortis. Tu as lu? Non, non, ils étaient du même nom. Non, non, ils étaient du même nom. Ils se sont adjoints au même nom. Je veux dire comment on le sait. Par le récit de la faute du veau d'or, où lorsque Moïse descend de la montagne et Josué monte vers lui, ils se rencontrent à mi-chemin et Moïse demande à Josué que se passe-t-il. Alors Josué répond, il y a un bruit. Et ce n'est ni un bruit de victoire, ni un bruit de défaite. Ça veut dire qu'il y a deux camps, il y a deux camps aussi forts l'un que l'autre. Et finalement, à la longue, le côté du Erevav a pris plus d'influence que le côté d'Israël. Comment on le sait? Eh bien, il y a eu 12 explorateurs et 10 d'entre eux, de nouveau un cinquième, hein, 2 sur 12. Hein, 10 d'entre eux ne veulent pas rentrer en Eretz Israël. Ils sont influencés par la propagande du Erevav. Et je vais essayer de plaider leur dossier. Hein, et deux seulement, c'est Josué et Caleb ben Yefouné qui restent fidèles à Moïse. Leur dossier, c'est quoi? Eh bien, nous avons eu la révélation de la Torah du Sinaï et nous acceptons cette Torah. Mais Eretz Israël, en tant que terre nationale, ça ne nous concerne pas. Mais c'est donc la terre sainte de la loi de Moïse.
Et Moïse même.
Ça, c'est une autre question. Ne mélange pas les questions. Okay.
Est-ce qu'il compte la Russie
sans l'île ou la Russie sans l'île? La Révave. C'était la question de tout à l'heure. Il y avait 600 000 Hébreux et 600 000 du Erevav. C'est ça que j'explique. Et ce que je voulais vous mettre en évidence, c'est que c'est extraordinaire de voir que dans la société juive reconstituée en nation, nous avons cette même situation. Il y a deux ensembles qui se divisent à force égale, et c'est à une voix de majorité ou de minorité qu'il y a chaque fois les élections, chaque fois qu'il y a un grand problème. Chaque fois, il y a un grand problème sur l'identité d'Israël. Vous avez deux moitiés à peu près égales, et c'est les petits partis qui font. Vous avez remarqué ça? C'est très frappant. Bon, ça ne veut pas dire que les uns c'est les autres c'est pas les uns. Mais nous vivons des situations extrêmement analogues. Alors, je reviens à l'analyse de tout à l'heure, parce que je crois qu'elle est très importante. Parce que beaucoup de consciences se demandent avec beaucoup de perplexité que se passe-t-il? Que c'est précisément, et il arrive souvent, que ce sont les Juifs fidèles à la loi de Moïse qui refusent la terre d'Israël. Alors, je voulais vous indiquer que c'était déjà une situation qu'on avait déjà connue, et qu'elle a des racines, et qu'elle a une explication. Ça s'appelle, dans les textes de la Kabbalah, la génération du désert, d'Or Amidbar, qui a accepté la Torah, mais pas Eretz Israël. Je pense qu'il faut, avoir le courage de lire les textes comme ils sont écrits. Alors, qu'il y ait dans ce temps de transition, entre le temps de l'exil et le temps du retour, toute une époque, et ça peut prendre des générations, de régularisation d'identité à l'échelle individuelle, c'est tout à fait normal. Je ne sais pas si le temps nous laisse le temps, mais c'est tout à fait normal. Une réidentification à l'échelle individuelle n'a pas forcément le rythme d'un événement à l'échelle collective. L'événement à l'échelle collective qui s'est passé de notre temps est irréversible, c'est une mutation d'identité, on a changé d'époque, et on est passé d'un monde où il n'y avait pas l'État d'Israël à un monde où il y a l'État d'Israël. Ça, c'est l'événement à l'échelle collective. Que la régularisation d'identité à l'échelle individuelle ait un rythme différent, c'est tout à fait normal. Le seul problème, c'est est-ce que les Russes nous laisseront le temps? Je ne sais pas, les Russes ou les autres. Nimrod, Lot, bref. Et Amalek. Mais qu'il y ait des Juifs de la Torah qui, de façon doctrinale, acceptent la Torah de Moïse et refusent Eretz Israël, c'est cette situation-là. C'est ce que je voulais vous signaler. C'est-à-dire que ça se formule en termes bibliques, c'est la terre sainte, c'est pas la terre des ancêtres. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, c'est un peu analogue finalement à ce que le concept de terre sainte est devenu chez les chrétiens. Et vous savez, il nous arrive souvent, maintenant on s'est habitué, quand on lit des placards de publicité, pèlerinage en terre sainte, sous la direction de monsieur le rabbin Intel, ça nous donne froid dans le dos, on se dit, voilà le curé qui arrive. Vous comprenez ce que je veux dire?
Et tous ceux
tous, la génération, pas leurs enfants.
Comment?
Pas leurs enfants.
Les enfants des âmes aussi sont rentrés.
Bien sûr, c'est pourquoi on est plein de juifs purs en Israël.
Qu'est-ce que c'était ces gens qui
venaient
pas juifs et qui sont allés loin?
Voilà, j'essaie. Très bien. J'essaie de l'indiquer tout à l'heure, je vais l'expliquer. L'Empire égyptien est un empire totalitaire qui avait asservi énormément de peuples, dont les Hébreux. Et de ces peuples asservis par les Égyptiens, et il y a eu énormément d'hommes, de femmes qui sont appelés ce Ham, ce peuple qui se sont adjoints aux Hébreux, c'est-à-dire qui ont eu la même expérience de l'exigence du salut des Hébreux et sont sortis d'Égypte avec les Hébreux sous la direction de Moïse. C'est-à-dire c'est Moïse qui les a intégrés à Israël. Et Dieu a confirmé par la suite.
Pardon, je ne crois pas que vous ayez compris ma question.
Ah oui.
Quelle est l'origine de ces gens?
Ah, c'était des Soudanais, des Coptes, des Éthiopiens, des...
C'est ça.
Oui, bien sûr. Oui, enfin, les Coptes. Aujourd'hui, on les appelle les Coptes, excusez. Non, non, c'était des peuples non hébreux qui étaient en Égypte, en esclavage de l'Égypte. Comment pourquoi? Écoutez, une minute. Je vous donne un exemple très analogique. Vous avez, on parle de l'Empire soviétique. Eh bien, il y a dans cet Empire soviétique énormément de peuples qui sont asservis au peuple russe. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est très analogue. Vous savez, le fait que ce slogan, Shalat Ami, laisse sortir mon peuple, soit repris aujourd'hui par rapport aux Juifs de Russie, c'est très significatif. Qui donc? Et vous savez, les Juifs russes viennent parfois avec des conjointes ou des conjoints qui sont de ces peuples. Et ça fait des Israéliens, tout ça. Eh bien oui, des Juifs pieux qui refusent avec Israël, mais comme ils sont très pieux, ils la refusent dedans. C'est vrai, là. Et il y a dans un état juif que ça peut se passer. Dans un autre état, ils seraient mis en camp de concentration. Et là-bas, ils sont en concentre à Sillon. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel? Pas plus fort, j'en sais pas. Oui?
Chacun?
Ben justement, effectivement, ça pose un problème. Chacun s'est rangé sous la bannière de telle ou telle tribu. C'est évident. Cette intégration s'est faite par tribu.
Mais c'était arbitraire.
Non, c'était pas arbitraire. Vous savez, a posteriori, on diagnostique toujours dans les phénomènes socio-humains que ce qu'on croyait être arbitraire, efker, comment, arbitraire, hein, en réalité, c'est une motivation profonde de l'identité. Par exemple, lorsque le peuple juif éclate en diaspora, certains vont en Amérique, certains vont ailleurs. On peut se demander a priori pourquoi, c'est arbitraire. A posteriori, on s'aperçoit que ça correspond à leur identité. Et c'est un midrash que je vous cite.
Quelle est la différence entre la notion de
Yeshua
et
Geoula?
Voilà.
Yeshua et Geoula.
Ah, bon.
Oui, Geoula, c'est la notion du fait d'être sauvé de l'esclavage lui-même. Yeshua, c'est d'être sauvé de la souveraineté des Égyptiens sur les Hébreux, même s'il n'y a pas persécution, même s'il n'y a pas esclavage. C'est deux niveaux du salut différents. Alors en français, on pourrait dire délivrance et salut. Vous savez, nous avons eu un très grand rabbin d'Israël, qui a été le Rav Uziel, un rabbin des Sfaradim de la génération précédente, qui avait dit nous attendons deux messies. L'un qui sortira les Juifs de l'exil, et l'autre qui sortira l'exil des Juifs.
Ah,
c'est un peu ça. Ça, c'est Géoula, ça, c'est Yeshua. Bien, mais je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vous remercie de nous avoir permis de passer cette soirée d'études ensemble. Alors,